Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Nathalie, autour de vous ce soir, Gérard Carrérou, Alix Bouyaguet, rédactrice en chef à France 2, et Alexandre Malafaï, président fondateur du think tank Sinopia.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bienvenue à tous les trois dans ce studio. On passe une demi-heure ensemble et à chaque partie, j'aimerais bien qu'on aille sur un sujet différent si vous le voulez bien. Il y a bien entendu les retraites, on va y venir, un zoom sur Édouard Philippe et puis opération câlinothérapie autour d'Emmanuel Macron demain. Alors, commençons par le commencement. Le match parlementaire s'était lancé. L'examen de la réforme des retraites a démarré cet après-midi en commission à l'Assemblée. Quelques 22 000 amendements, c'est un record sous cette législature, déposés sur ce projet contesté. Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, était ce matin sur Europe 1 l'invité de Sonia Mabrouk. Écoutez ce qu'il disait.
Ce que veut faire la France insoumise, c'est pas un débat parlementaire, c'est un hold-up démocratique. Le droit d'amendement, il est constitutionnel. Mais quand 17 personnes présentent le même amendement à la virgule près pour faire de l'obstruction, pour rattraper dans la rue ce qu'ils ont perdu dans les urnes, ça s'appelle de l'obstruction et c'est un hold-up démocratique.
19 000, effectivement, pour les 17 élus de la France insoumise, parce que vous nous rejoignez pour la première fois, et peut-être la prochaine, j'espère, Alix Bouyaguet. Je me tourne vers vous. C'est de l'absurdité, comme l'a dit Marc Fesneau.
Oui, on peut dire que c'est une certaine forme d'absurdité. En même temps, l'obstruction, c'est vieux comme le monde. Hein, et en l'occurrence, c'est totalement assumé par Jean-Luc Mélenchon. C'est une stratégie politique de prolonger autant que possible le mouvement de grève dans la rue, voilà, d'aller jusqu'au bout du procès. C'est vrai qu'aussi, il se venge un peu. Il y a quand même 29 ordonnances dans ce projet de loi qui coupe un peu, qui empêche les parlementaires de saisir totalement du sujet. Donc, c'est vrai qu'ils font durer le plaisir en sachant que chaque député va avoir 2 minutes par amendement pour le présenter. On peut imaginer qu'à la fin, le chrono, ça va coûter cher.
44 000 minutes, ça fait beaucoup.
44 000 minutes, ouais, c'est ça. Bon, de toute façon, la majorité, ils savent très bien, Alexandre Malafaï, Gérard Carrérou, qu'il n'y aura aucun cadeau sur ce texte-là, que de toute façon, ça va être une bataille vraiment chaque seconde et indéfiniment, j'allais dire presque.
Ben, vous savez, les batailles politiques, elles se passent ou bien dans la rue, avec tous les risques que ça... Là, ça a été des manifestations, mais ça peut aussi être des violences dans la rue. On l'avait vu au moment des Gilets jaunes. Ou alors, elle se passe dans le cadre démocratique qui est prévu à cet effet, c'est-à-dire les chambres du Parlement. D'abord l'Assemblée nationale, ensuite le Sénat. À partir du moment où le gouvernement a voulu aller très vite et a demandé la procédure accélérée, il était, je dirais, assez logique qu'une partie de l'opposition se lance dans une bataille d'obstruction parlementaire. Et moi, ça ne me choque pas. Je ne pense pas que l'expression de hold-up soit adaptée. Ce n'est pas du tout un hold-up. C'est effectivement la réponse du berger à la bergère. Et puis, regardez les parlements anglo-saxons. On appelle ça le filibustering. Et c'est très courant. Il y en a qui lisent la Bible pendant des heures et des heures, nuit et jour, etc. Bon, ça fait partie. C'est légal. C'est dans le code de l'Assemblée et il n'y a aucune raison pour qu'on s'y oppose.
Bah oui, crispation assurée, Alexandre Malafaï, ça va durer, il va y avoir amendement sur amendement, peut-être la menace du 49-3.
On verra, en tout cas, s'il y avait hold-up démocratique, c'était il y a 2 ans et demi quand Emmanuel Macron a été élu, c'est même lui qui l'avait un jour concédé, je crois, cette fameuse formule. Non, mais bien sûr que ça va être une bataille, mais cette bataille-là, il vaut mieux qu'elle ait lieu à l'Assemblée. Elle devrait d'ailleurs durer 50 jours. C'est mieux que de voir les rues bloquées, les trains bloqués, les métros bloqués. C'est là que ça doit se passer, le vrai débat démocratique. C'est pour ça que quelque part, qu'on se plaigne qu'il y ait des exercices de contre-pouvoir, je trouve ça absurde de la part d'un gouvernement qui est censé se présenter comme étant légitime. Après, oui, ça va durer. Ça peut se terminer par un 49-3. On ne voit pas les issues aujourd'hui. Parce que de toute façon, globalement, on va avoir cet examen de texte en commission spéciale qui n'aboutira à rien. Donc après, on va passer dans l'hémicycle. Comme de toute façon, le volet financier n'est pas pour l'instant traité puisqu'il fait l'objet d'une discussion par avec les partenaires sociaux, c'est finalement au Sénat que les choses vont vraiment se passer, ça va revenir à l'Assemblée. Enfin, très sincèrement, là encore, on l'avait déjà dit ici, mais on est quand même assez perdu sur le sens de ce qui est en train de se passer dans cette réforme des retraites.
Alors Gérard disait, ça va se passer dans l'hémicycle, mais pas seulement, parce que dans la rue, ça va continuer. On sait que jeudi, de nouvelles manifestations sont annoncées, ensuite lundi d'après, pour réclamer toujours encore le retrait du projet. Ça a encore de l'impact, Alix Bouyaguet ?
Ce qui se passe en ce moment dans la rue, oui, on va dire que c'est un accompagnement. Je ne pense pas que ça ait un réel impact, parce que le projet de loi, il est quand même sur les rails. Même si, effectivement, il devait être voté le 3 mars, à mon avis, ce sera très compliqué. Ce qui est aussi amusant, c'est de voir, au-delà de la France insoumise, comment chaque parti utilisent ce match à l'Assemblée. Les LR, ils en ont déposé 1100, donc ce qui est un peu minable si on compare aux 19 000 de la LFI. Mais eux, ils ont décidé de décliner à travers chacun de leurs amendements, leur projet alternatif. Donc il y a quelque chose, pour le coup, d'un petit peu construit. Ils savent d'ores et déjà qu'eux, ils voteront éventuellement les articles qui seront potentiellement compatibles avec leur idéologie, mais qu'en revanche, pour l'instant, la décision sur le vote global du texte n'est pas encore prise. Le RN, eux, 65 amendements seulement, devrais-je dire, sauf que dans chaque amendement, c'est une opposition stricte au texte, c'est-à-dire qu'ils disent, ils demandent de supprimer chaque article du texte. Voilà.
Oui, mais chacun a sa méthode, mais au fond, tout le monde, enfin, je parle tous ceux qui font cette bataille d'amendements, ont en commun une idée force, c'est essayer d'éviter que le texte soit voté avant les municipales. Or, les municipales, je le rappelle, pour ceux qui l'ont déjà oublié, c'est le 15 mars, et le deuxième tour le 22 mars, et quelque part, ça sera une défaite. S'il y avait conjonction entre une sévère défaite de la majorité actuelle au municipal, conjuguée avec l'impossibilité de faire passer, ça donnerait effectivement une situation politique un petit peu différente.
Alors justement, ces municipales, on va en parler dans un petit instant avec vous, en zoomant sur Édouard Philippe, qui commence, ça y est maintenant, les voyages entre Paris et Le Havre. À tout de suite.
Europe 1, il est 18h40. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et jusqu'à 19h, c'est le débat des grandes voix. Nathalie, avec autour de vous ce soir Alix Bouyagui, rédactrice en chef à France 2, Gérard Carrérou et Alexandre Malafaille, président fondateur du think tank Sinopia.
Et on observe, ça y est, les allers-retours qui vont démarrer pour Édouard Philippe entre Paris et Le Havre. Ça a commencé avec une campagne aux élections municipales qu'il veut discrète pour ne pas être accusé de délaisser Matignon, n'est-ce pas Gérard Carrérou? Il va falloir se la jouer fine, en quelque sorte, pour Édouard Philippe.
Ça ne peut pas être trop discret. Quand on est Premier ministre, ça se voit quand on se déplace ou quand on fait une initiative ou un discours. Donc effectivement, il affecte la discrétion, mais enfin, il fera une campagne normale. Mais ce qui est amusant, ce qui est intéressant, c'est que, au fond, la Ve République, que je suis depuis je ne sais combien, 50 ans, c'est toujours, ou bien ça va bien du côté du président et du Premier ministre, bon, dans ce cas-là, ça va, ça baigne, ou bien ça va mal pour les deux, et dans ce cas-là, on se dit, qu'est-ce qui va pouvoir nous sortir de cela, ou alors c'est le jeu, l'un va bien et l'autre va mal. Or, on est un peu dans cette situation où vraiment, on en parlera sans doute tout à l'heure, mais le président va mal actuellement, pour des tas de raisons, et du coup, le Premier ministre donne dans ce mal l'impression d'aller plutôt bien. Il est toujours à peu près sur la même ligne, il s'énerve pas, il porte pas de t-shirt, etc. Bon, il rassure assez bien la droite sans inquiéter trop la gauche. Donc, pour l'instant, il apparaît comme l'homme fort de cette petite période.
Voilà, et en plus, Alexandre Malafaille, Alix Bouyagui, il joue la carte de la politique locale, ce qui manque considérablement en Macronie.
Oui, enfin là, il va chercher l'onction de légitimité sur le terrain. Très bien, mais les Français s'y trompent pas. Pardon, il ne se met pas en risque. Les dés sont pipés. S'il gagne, de toute façon, il ne restera pas maire puisqu'il continuera d'être Premier ministre. Et s'il perd, il sera toujours Premier ministre. La mise en risque est égale à zéro. Donc si vous voulez, si vraiment il voulait aller chercher les Français et montrer qu'il s'impliquait réellement...
Mais quand même, en termes d'image, pardonnez-moi, mais au Havre, le Havre n'est pas acquis à sa cause. Parce que regardez la réforme des retraites. Là-bas, ils ont clairement bataillé contre et pour cause, les marins.
Dans ces cas-là, pardonnez-moi, si vous voulez, compte tenu de l'état de délitement de l'opinion et du manque de confiance, si vraiment vous voulez montrer que vous vous engagez et que vous mettez votre tête sur le billot, vous la mettez vraiment. Voilà, et vous prenez vos risques. Si c'est pour aller faire semblant d'eux, occuper le terrain, faire de la com, se rapprocher et puis au bout du compte n'en tirer aucune leçon parce que de toute façon, même si on est battu, on continue à gouverner, pardon, je pense que les gens ne sont pas dupes et c'est ce qui risque de se passer et ça ne fera que renforcer un peu plus la fracture entre les Français et les gens qui nous gouvernent.
Vous êtes d'accord, Alix Bouyagui?
Non, moi j'ai compris qu'il était un peu plus bravache que ça. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement une règle qui s'imposait aux ministres. S'ils étaient battus, il pouvait rester au gouvernement, mais qu'en revanche, cette règle ne s'appliquait pas à lui-même.
Il l'a dit, mais bon.
Il l'a dit, effectivement, s'il est battu, il quitterait Matignon.
Il a dit, j'en tirerai les conséquences pour Matignon.
Oui, mais enfin, on peut, sous texte, se dire que normalement, il partirait de Matignon. Après, je pense qu'il est bravache, mais qu'il maîtrise un petit peu l'environnement et les risques. Il a été élu il y a 6 ans avec 52% des voix au premier tour. Là, j'imagine que il envisage, et il le dit lui-même, un deuxième tour, un second tour, mais qu'il a suffisamment d'indices concordants lui permettant de penser que il ne joue pas son poste à Matignon sur ce coup-là.
Non, mais il y a un risque quand même. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Alexandre.
C'est très bien, allons-y.
Il les dés sont pipés. Je crois quand même qu'il y a un risque. Parce que Le Havre, c'est une ville qui a été une ville longtemps, une ville de gauche, une ville avec un maire communiste qui s'appelait Duroméa, qui a été là pendant je ne sais pas combien, 25 ans, enfin, et très longtemps. Et c'est une ville qui s'est embourgeoisée peu à peu. Et effectivement, on l'avait vu avec le prédécesseur du Premier ministre, c'est-à-dire M. Ruffnac. C'est une ville qui s'est embourgeoisée. Il y a une vraie bourgeoisie du Havre. Disons, la droite et les centristes, bon, il les aura largement pour lui. Alors, est-ce que le choc, le contre-coup de la réforme des retraites, des grèves, etc., feront monter la gauche? Enfin, la gauche, les adversaires en général, sûrement. Mais de là, s'il était battu, alors là, pour le coup, s'il était battu au deuxième tour, il ne sera peut-être pas élu au premier tour, mais s'il était battu au deuxième tour, ça serait un cataclysme quand même.
Au premier tour, c'est sûr que non. Moi, je suis prêt à parier avec vous ce soir.
Il a la chance, c'est que l'opposition est visiblement en ordre un peu dispersé, donc ce qui pourrait lui faciliter un peu le travail.
Est-ce qu'il est devenu incontournable aujourd'hui, Édouard Philippe, au-delà de cette candidature au municipal? Parce qu'on parlait d'un remaniement sitôt après les municipales, pour mai-juin. Désormais, on en parle quasiment pour septembre, voire plus. Il est l'homme fort aujourd'hui?
Disons qu'on voit qu'à chaque fois qu'Emmanuel Macron doit procéder à un remaniement, même sur des postes subalternes ou moins visibles que le Premier ministre, il a beaucoup de mal à trouver les remplaçants. Le banc de touche est compliqué à trouver.
C'est grave parce que les présidents qui, à un moment donné, renoncent à changer... Il y a eu un moment, par exemple, dans la présidence Giscard, où Raymond Barre était devenu éminemment impopulaire. Il avait fait des tas de choses, mais il était impopulaire. Et Giscard a songé à le remplacer, et puis finalement, il ne l'a pas fait. Et du coup, il a été battu à la présidentielle. Il y a des cas comme ça où, effectivement, Sarkozy...
Nicolas Sarkozy et
Sarkozy,
François
absolument,
Fillon.
Vous avez raison.
Alexandre
bon. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on voit bien quand une équipe se met en place, il y a un côté vivier. C'est-à-dire que vous prenez plein de risques et vous avez plein d'occasions de voir entre ce qui se passe à l'Assemblée, au Sénat, dans les grandes villes, dans les régions, au gouvernement, etc. Bon, qu'est-ce qui se passe au bout de deux ans et un peu plus? Le vivier qui a été mis en place en scène, entre ceux qui sont partis, ceux qui ont été remis de côté, ceux qui ont des casseroles, y compris parfois au perchoir de l'Assemblée nationale, comme les petites choses qui couvrent. Voilà, et combien ce sont en plus, après ceux qui sont au gouvernement, combien se sont illustrés pour dire ils sont très bons? On peut les lister, ou en tout cas qui ont révélé des vraies capacités. Jean-Michel Blanquer, indéniablement, en tout cas, a l'air de porter, de maîtriser. Gérald Darmanin, voilà, il y a des gens comme ça. Bon, Bruno Le Maire, Bruno Le Maire n'est pas du tout consensuel, comme peut être, par exemple, Jean-Michel Blanquer.
Alors, on va se retrouver dans une petite seconde. On va regarder quand même en Macronie, là, dans le détail, parce que demain, opération câlinothérapie à l'initiative Emmanuel Macron, la semaine dernière, a été compliquée.
Europe 1, il est 18h49. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Ce soir, autour de vous, Nathalie Lévy, Gérard Carrérou, Alix Bouyaguer, rédactrice en chef à France 2 et Alexandre Manafaille, président fondateur du think tank Sinopia.
La semaine dernière a été compliquée, une période difficile pour la majorité présidentielle qui s'est cristallisée jeudi dernier avec, et bien sûr, le cas de l'allongement du congé pour un enfant décédé. Du coup, réception demain. Emmanuel Macron reçoit l'Élysée pour apaiser les esprits. Moi, je me pose la question d'une grande messe comme ça avec les courtisans habituels. Est-ce que c'est la bonne stratégie pour resserrer les liens?
Disons que ça ne peut pas être une mauvaise stratégie de recevoir, de faire effectivement de la câlinothérapie, de s'intéresser à la vie de ce parti, qui est un parti un peu artificiel. C'est quand même des gens qui viennent de partout. Il y a la jambe droite, il y a la jambe gauche. On voit qu'il y a des dissensions, on voit que ça part un peu dans tous les sens. Et je pense que Emmanuel Macron, s'il veut être président en 2022 et concourir à nouveau, il va devoir vraiment s'y pencher sur le parti et sur la manière dont il peut parler d'une seule voix, parce que c'est vrai que là, ça devient un petit peu compliqué.
Messe, Gérard Carrérou, comme ça, oui, est-ce que c'est le bon format là,
Je ne sais pas si c'est le bon format, mais il est urgent, dans l'état où est à l'heure actuelle la popularité du président de la République dans son propre groupe parlementaire, dans sa propre majorité, il est urgent de faire quelque chose. Alors, On peut discuter de savoir si c'est la meilleure solution. Encore que les gens sont toujours contents d'aller faire un tour à l'Élysée, de boire
une réception pour apaiser les esprits.
Pouvoir,
quand même,
et pouvoir interpeller le président, etc. Ouais. Ça donne quand même un label. On fait partie des happy few, nomenclature qui gouverne le pays, etc. Bon, tout ça, donc, c'est un côté. Mais parce que les députés, moi j'en ai rencontré quelques-uns là, il y en a beaucoup qui parlent toujours sous l'anonymat, mais si on donnait leur nom, on s'apercevrait qu'il y en a un certain nombre qui considèrent qu'il les a poignardés carrément. Au fond, il leur a lancé l'accusation « vous manquez d'humanité ». C'est-à-dire, au gros, vous êtes des égoïstes, vous êtes... Et ils ont pris ça, ils se sont dit, mais enfin, on nous avait dit de faire comme ça, on a suivi, et maintenant on se retourne contre eux. Donc ils lui en veulent, beaucoup. Alors bon, ça ne veut pas dire qu'ils feront la fronde comme ils avaient fait pour Hollande.
Comment éviter les frondeurs? C'est vraiment ça le sujet aujourd'hui. Hein. Alexandre Malafaye, Gérard le disait, ils n'ont pas compris, ils se sont fait, j'allais dire, tenser. Là, il y a de plus en plus de dissidences, il y a des départs aussi, on en a vu encore la semaine dernière. Et là, bah, du coup, réception pour ramener tout le monde dans la famille.
C'est encore une des recettes de l'ancien monde. Hein. C'est partie de la panoplie des solutions qu'on utilise dans ce genre de situation. Après, c'est vrai qu'il y a vraiment une capacité de sabotage ou d'autodestruction dans cette République En Marche qui est assez fabuleux quand même, parce que globalement ils se font du mal tout seuls. Hein. C'est ni les événements extérieurs, ni la pression de la concurrence ou des autres partis, ils se font ça tout seuls. C'est assez fascinant, donc il faut arriver à sauver les meubles. Je ne sais pas si c'est possible, mais ce qui est vrai, et je rejoins ce que dit Gérard Carrérou, je crois qu'il y a vraiment un avant-après humanité. C'est-à-dire que là, il a cette espèce d'hôpital tout d'un coup qui se fout de la charité, quoi, qui donne des leçons à tout le monde, alors que pendant 2 ans, tout le monde lui a reproché ses postures jupitériennes, ses distances, son manque d'empathie, d'humanité, ces petites phrases blessantes, cassantes, humiliantes, etc. Et puis tout d'un coup, il se passe un truc qui n'est pas de son fait, pour le coup. Hein. Il n'a rien fait. Bon, il y a une maladresse, c'est ballot, ils n'ont pas bien mesuré le poids de la conséquence, ils n'ont pas posé les bonnes questions, il y a un peu d'amateurisme encore dans cette équipe gouvernementale. Et tout d'un coup, il faut qu'ils se sentent bons de rappeler à tout le monde qu'il y a des valeurs dans ce pays et que lui, il est le garant de tout ça. C'est sûr que ça ne peut pas passer. Alors donc demain, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont essayer de remettre un peu de sens à cette perspective, faire un peu sans doute de jeu de pression, et puis de rappeler la vieille politique. C'est attention, il y a des échéances. Si vous ne faites pas le job, en 2022, bah vous serez tous au chômage. Ouais.
Vous savez que, juste, ça va peut-être être le petit bout de la lorgnette, mais Cédric Villani est dissident. Il est invité quand même demain.
Oui, mais il a dit qu'il ne pouvait pas.
Il a eu une réunion. Non, mais on se demande quand même si c'est effectivement Emmanuel Macron n'a pas l'air de mettre les choses au clair. Il l'a fait la semaine dernière.
Vous savez, on le dit ça pour le pape, mais c'est un peu vrai aussi pour les présidents sous la 5e. Le président, il doit être à peu près infaillible. Et bah là, il est extrêmement faillible. Et il va falloir qu'il fasse un mea culpa.
Les signes ne sont pas clairs quand même.
Et puis, il est un peu paradoxal. C'est-à-dire que de temps à autre, quand il faut trancher, couper des têtes éventuelles, écarter, ramener uns, il ne fait pas le boulot. Donc, il a un côté un peu velléitaire dès lors qu'il faut faire preuve d'une certaine forme d'autorité.
Et en même temps, un patron, ça
doit en faire preuve de temps à autre.
Voilà. Merci beaucoup à vous, les grandes voix du lundi. Merci Alix Bouyaguet, Alexandre Malafaye, Gérard Carrérou. Merci à vous.